RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Alors, chers amis, bonjour. Alors, je ne vais peut-être pas trop copier sur les radios périphériques, ou amis, ou concurrentes, on ne sait pas, on ne sait jamais comment on est l'une contre l'autre. Hein. Il y en a qui présentent la météo. Aussitôt quand ils arrivent, plaf ! Eh bien, moi, je vais vous présenter la météba. Voilà. Et Alice ? Alice, t'as mis tes bas ? Germaine ! Tu vas les mettre, tes bas, oui ? Edwige, là-bas, bas, t'as pas besoin de bas, il fait chaud. Tu en compte, c'est l'atmosphère nucléaire de Mururoa qui vous réchauffe, là-bas, ouais. Hein. Adolphe, t'as mis tes bas de contention ? Ouais, fais gaffe, hein. Fais gaffe à tes jambes, tu sais que t'es diabétique, hein. Bon, attention à toi, hein. Et Marie ? Mais non, ça se met pas sur la tête, les bas, ça se met en bas. Non, mais attends, c'est quoi ça ? Ah, c'était ton bonnet ? Ah, excuse-moi, j'avais pas bien vu. Ah, bon. Voilà, donc je vous ferai la météo à chaque fois, mais en la faisant en bas. On est d'accord ? Hein ? C'est quand même mieux, hein ? Et puis au final, on sait pas quel temps il fait, c'est ça qui est bien. Et puis si vous êtes pas content, vous ouvrez vos volets, votre fenêtre, et vous regardez quel temps il fait. Voilà. Moi, je ne suis pas payé pour faire la météo. Hein. Je ne suis pas là devant la carte de France avec une règle ou avec un stylo en faisant voir que là-bas, à Plougastel-Laoulas, il va tomber de la merde. Non, non. Bon, allez. Bon, ça, c'était hors poésie, ça. Bon. Encore que, bah, je trouve que c'est quand même très poétique. Quoi, qu'est-ce que tu dis, Edwige ? Que ce n'est pas poétique, ce que j'ai dit là ? Eh bien, va te faire. Bon. Allez, retourne dans ton... remets ton paréo. Ah tiens, tu vois, il y a presque le mot météo. Remets ton paréo. Ah, c'est pas mal, ça, tiens. J'y avais pas pensé. Bon, allez, si on travaillait sérieusement. Hein, enfin, moi, je suis pas là pour travailler, moi. Moi, je viens vous faire plaisir pour me faire plaisir, en fait. Vous voyez, c'est ça, la différence. Bon, allez, on va commencer par de la poésie. Alors, cette fameuse collection de la bibliothèque de poésie, enfin, j'ai calculé, j'ai 24 volumes. Alors, ils ont tous un thème. Et là, j'ai amené la poésie surréaliste. Voilà. C'est quand même bizarre. Hein. Remarquez, moi, ce que je fais, c'est un peu surréaliste aussi. Hein. Même des gens comme, vous voyez, Paul Éluard, eh bien, il fait partie des poètes surréalistes. Enfin, il faisait partie. Hein. Maintenant, il est bien vivant, bien enterré, et on parle encore de lui. J'espère que moi, quand je vais casser ma pipe, on continuera à diffuser mes poèmes. Sinon, je vais faire la gueule, hein. Je vais gueuler si jamais ça se fait pas comme ça, hein. Je vous préviens. Hein. Alors, il a fait un poème, si on peut appeler ça un poème, « Bonne et mauvaise langue, prétendent que le mal est bien fait, ainsi le faux, le négatif, oblige la vie à se haïr. Bon, » moi, je me suis jamais haï. Non, hein. Pas plus que IA, parce que, hein, intelligence artificielle, vous voyez, AI, IA. C'est quand même bizarre parce que on peut haïr l'IA, l'intelligence artificielle, vous voyez. Il était précurseur, hein, le père Éluard. Hein. Alors, ne dites pas sur un chemin de pierre, d'épaisses maisons fendues par la culture, ne dites pas j'ai honte, un aigle irrespirable. Vous prendrez à la gorge, à la lampe des moissons de langue. La peur, comme une fleur flétrie au fil de l'eau, la proue des nerfs, avec un F, hein. Contraire au vent, monarque, ne te mets pas à genoux, illustre continent. Aussi laid que cheval et bourgeois réunis, ne prends pas la forme d'une machine à faire la mort. Prends garde aux géographies, menaçantes des nouveaux délires. Aux mains guidées par des odeurs feuillages et tenaces, à l'oreille qui sort du parloir. Aux caresses dictées par la pitié glacée des songes. Si tu heurtais ton front, tu rejoindrais l'immensité à tête d'épingle, les rouages les plus familiers se brisent, dans la main gantée des prisons, le mouvement luisant s'éteint des ombres et passe. Le chemin parcouru à grande allure, lorsque les tropiques voguaient sur la mer des étoiles, lorsque le ciel pavé d'oiseaux chantait dans les banlieues, vient échouer ici. On avait mis le cap aux perles des framboises, aux seins sensibles des merveilles, aux roses farouches de l'orage. Et l'on apprend l'alphabet des ignorants. Voilà. Hein, c'est beau, hein. Je ne veux rien dire, mais bon, c'est beau. C'est ça, en fait, le fait qu'on dise que c'est des surréalistes. Un surréaliste, il fait quelque chose, mais personne ne comprend. Voilà, ça veut dire ça, le surréaliste. Alors, c'est beau, des fois, c'est beau, parce que, bon, j'ai vu, je mets un peu d'intonation, donc c'est plutôt comme une musique. Mais il faut écouter que la musique, il ne faut pas écouter les paroles. Dans ces cas-là, oui. Hein. Bon, alors, attendez, j'ai d'autres surréalistes. Ah, oh, ben là, lui, oui. Antonin Artaud. Alors, je peux vous dire que lui, c'est plus qu'un surréaliste. Il est fou, il est mort dans un asile de fous, vous vous rendez compte? Remarquez, un poète, ça ne peut que mourir dans un asile de fous. Parce que la poésie, ça rend fou, hein, je peux vous le dire. Hein. Moi, je suis déjà à 75% fou. Bon, je sais qu'il me reste 25%. Mais vu mon âge, je pense que je pourrais les atteindre, les 100% fous. Oui, suffit que je vive encore 15 ou 20 ans. Mais c'est bon, je gagne, 100% fou. Alors, justement, il fait une invocation à la momie. Pas à la momilette, hein, non. Pas à la mobilette, non, la momie. Ses narines d'os et de peau, par où commencent les ténèbres de l'absolu et la peinture de ses lèvres que tu fermes comme un rideau. Alors, un rideau, ça ne se ferme pas dans le même sens, hein. Bon, mais c'est pas grave. Oui, c'est parce que si elle est couchée, si le mort il est couché, automatiquement, ça se ferme, les lèvres se ferment comme un rideau. Vous voyez le principe? Regardez bien ma main, comment ça fait. Ça y est, vous avez compris? Bon. Et cet or que te glisse en rêve, la vie qui se dépouille d'os et les fleurs de ce regard faux, par où tu rejoins la lumière? Je ne sais pas par où avoir rejoint de la lumière, parce qu'il a les yeux fermés, hein, le mort. Ah oui. Mais bon. Momie. Et ses mains de fuseau, pour te retourner les entrailles, ses mains où l'ombre épouvante prend la figure d'un oiseau. Tout cela, dont sorne la mort, comme d'un rite aléatoire, ce papotage d'ombre et d'or, où nagent tes entrailles noires. Oui, parce qu'il paraît que les entrailles, elles noircissent. Hein. Ah, c'est normal. Hein. Bon. C'est par là que je te rejoins, par la route calcinée des veines, et ton or est comme ma peine, le pire et le plus sûr témoin. Voilà. Ben le mec, il fait fort. Hein. Mais il a toujours fait fort, lui. Hein. Ouais, ça, c'est vrai. Bon. Alors, tiens, on va passer. Alors, je vous ai fait une petite série de Bratsch. Alors, Bratsch, vous savez, c'est le jazz manouche. Hein. Oh, ben là, oui, vous allez avoir que ça hein, pendant l'émission, là. Hein. Alors, bon, ben Bratsch.
Momika, ti kupi mangisha lioniska, mi vidjama padalonane, padalju salovuški. Mi vidjama padalonane, padalju salovuški. Zapigaj kad jat kaloše, Сирајо иди ка сматују, јо па једем, ту деревнју девушку заспатајем. Тај, лај, 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 јо па једем, ту деревнју девушку заспатајем. Анда сера ја лашатка, а на виси у романе не бежи. Черна брови, цигани она на душе моје лежи. Дај, лај, 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 лај,
c'est chouette, hein. Et on va vous en redonner tout à l'heure, vous inquiétez pas. Bon, là j'ai un livre d'Alphonse Allais. Oui, alors le titre du livre, vous doutez bien, vu le personnage, ça s'appelle « À se tordre ». À se tordre de quoi ? Pas de douleur, de rire. Hein ? Alors, il a un titre qui est évocateur quelque part, bon, mais qui a un double sens. Hein ? La jeune fille et le vieux cochon. C'est comme si moi j'avais une jeune fille en face de moi, vous voyez, et moi je serais le vieux cochon, voilà. Mais là je pense que ça on parle vraiment d'un vieux cochon, hein. Vraiment vieux, et vraiment cochon, hein. Il y avait une fois une jeune fille d'une grande beauté qui était amoureuse d'un cochon, éperdument. Non pas un de ces petits cochons jolis, roses, espiègles, de ces petits cochons qui fournissent au commerce si exquis Jean Bonneau. Non, mais un vieux cochon, dépenaillé, ayant perdu toutes ses soies, un cochon dont le charcutier, le plus dévoyé de la contrée, n'aurait pas donné un sou. Un sale cochon, quoi. Elle l'aimait, fallait voir. Pour un empire, elle n'aurait pas voulu laisser aux servantes le soin de lui préparer sa nourriture. Et c'était vraiment charmant de la voir, cette jeune fille, d'une grande beauté, mélangeant de bonnes pelures de pommes de terre, du bon sang, de bonnes épluchures, des bonnes croûtes de pain. Elle retroussait ses manches et de ses bras, qu'elle avait fort jolis d'ailleurs, brassait le tout dans de la bonne eau de vaisselle. Ouais, parce que l'eau de vaisselle, il y a du gras dedans. On donne toujours l'eau de vaisselle au cochon. Hein ? Quand elle arrivait dans la cour avec son seau, le vieux cochon se levait sur son fumier et arrivait trottinant de ses vieilles pattes et poussant des grognements de satisfaction. Il plongeait sa tête dans sa pitance et s'enfourait jusque dans les oreilles. Et la jeune fille d'une grande beauté se sentait pénétrée de bonheur de le voir si content. Et puis, quand il était bien repu, il s'en retournait sur son fumier sans jeter à sa bienfaitrice le moindre regard de ses petits yeux miteux. « Sale cochon, va !» Hein ? Des grosses mouches vertes s'abattaient bourdonnantes sur ses oreilles et faisaient ripaille à leur tour au beau soleil. La jeune fille, toute triste, rentrait dans le cottage de son papa avec son seau vide et des larmes plein les yeux, qu'elle avait fort jolie d'ailleurs. On parle des larmes. Hein. Et le lendemain, toujours la même chose. Or, un jour arriva, c'était la fête du cochon. Comment s'appelait le cochon ? Oh, je ne m'en souviens plus, mais c'était la fête tout de même. Toute la semaine, la jeune fille d'une grande beauté s'était creusé la tête, qu'elle avait d'ailleurs fort jolie, se demandant quel beau cadeau et bien agréable elle pourrait offrir ce jour-là à ce vieux cochon. Elle n'avait rien trouvé. Alors, elle se dit simplement, « Je lui donnerai des fleurs. » Oh ! Elle descendit dans le jardin, qu'elle dégarnit de ses plus belles plantes. Elle en mit des brassées dans son tablier, un joli tablier de soie prune. Avec des petites poches si gentilles, elle les apporta au vieux cochon. Et voilà-t-il pas que ce vieux cochon fut furieux et grogna comme un sourd. Qu'est-ce que ça lui fichait à lui des roses, des lys et des géraniums ? Les roses, ça piquait. Les lys, ça lui mettait du jaune plein le groin. Et les géraniums, ça lui fichait un mal de tête. Il y avait aussi les clématites. Oh, les clématites, il les mangea toutes, comme un goinfre. Pour peu que vous ayez un peu étudié les applications de la botanique à l'alimentation, vous devez bien savoir que la clématite est insalubre à l'homme, alors elle est néfaste au cochon. La jeune fille d'une grande beauté l'ignorait. Et pourtant, c'était une jeune fille instruite, même qu'elle avait son brevet supérieur. Et la clématite, comme qu'elle avait offerte à son cochon, appartenait précisément à l'espèce terrible. Clématis, cocho, ni sida. Le vieux cochon en mourut avec une agonie terrible. Elle enterra dans un champ de colza et la jeune fille se poignardia sur sa tombe. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, qu'est-ce que c'est triste! C'est beau et triste à la fois. Les deux vont bien ensemble. Beau et triste, voilà. Moi, je voudrais mourir comme ça. Ouais. Poignardé par un vieux cochon. Un vieux cochon qui meurt et je me poignarde et je m'allonge sur lui. Voilà. Oh, ça, c'est une belle fin, ça. Mais on n'a pas fini. On va continuer, nous, par contre. Hein. D'accord ? Bon. Alors, j'ai un livre qui s'appelle « La poésie engagée ». Alors, engagée, je ne sais pas où, hein, dans quel régiment. Bon. Mais ce n'est pas grave. Bon. Et alors, il y a une certaine Véronique Tadjo. Elle est née en 1955. Donc, elle est encore vivante, à tous les coups. Hein. Moi, je suis bien né en 45, donc j'ai 10 ans de plus qu'elle, et je suis toujours vivant. Bon. Née à Paris d'un père ivoirien. Alors, bon, je ne comprends pas, ivoirien. Il n'avait qu'à mettre des lunettes. Oh ! Et d'une mère française. Bon. Véronique Tadjo enseigne actuellement à l'université d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'Atérite est son premier recueil de poésie. Voilà. Et alors, son poème s'appelle « Je vous salue ». Vous allez voir. Vous, les fouilleurs de poubelles, les infirlés, les moignons crasseux, les borgnes, les hommes rampants, vous, les maraudeurs, les gamins du taudis, je vous salue. Quel fardeau portez-vous ? En ce monde immonde, plus lourd que la ville qui meurt de ses plaies, quelle puissance vous lie à cette terre frigide qui n'enfante des jumeaux que pour les séparer, qui n'élève les buildings que pour vous écraser sous des tonnes de béton et d'asphalte fumant. Vous, les mangeurs de restes, les sans-logis, les sans-abri, quel regard portez-vous sur l'horizon en feu ? C'est pas beau, ça ? Quel bel hommage à tous ces pauvres malheureux, hein ? Ouais, mais c'est pas tout, mais elle ne dit pas à la fin qu'elle aura filé un casse-croûte. Oh, quand même, hein ? Moi, quand je faisais la maraude, hein, j'ai fait quand même 12 ans, tous les lundis soirs, pas l'hiver, pas l'été, hein, l'hiver. Mais l'hiver, ça dure quand même 4 mois ici en Dordogne. Hein. Bon. Même si on dit qu'une saison, c'est 3 mois, mais vous savez, des fois, il y a l'hiver qui rogne un petit peu sur l'automne ou sur le printemps. Hein. Comme l'été, hein. L'été, souvent, rogne un petit peu sur l'automne. Hein. Vous avez remarqué ça ? Ouais. Eh bien, moi, je leur donnais à manger. Je leur donnais du café chaud. Il y en a un qui dormait dans la rue, on lui donnait une couverture ou un gros pullover ou une grosse veste. On avait tout un vestiaire exprès pour eux, hein, qu'on mettait dans le camion, et voilà. Et puis, voilà. Mais là, elle, que dalle, elle ne fait rien. Hein. Et pourtant, elle a 10 ans de moins que moi. Hein. C'est honteux, ça, c'est honteux. Allez, tiens, un deuxième bratch.
Ciavolo c'è un uomo da mai macio, dalle mandale c'è un ramanastare, aspe a starà, mi mande a sta, se vuoi ci mangi poi mandare a c'è, oh pazzo, ma ti manda c'è e muca, ci dai capire, hai condicere, un bai, babai, ali ali aide, un bai, babai, ali ali aide, un bai, babai, dalle mandale muta dalla vatere amaru java che fai tu rome cale in dalle mandale esli la ciacace oh pazzo pa ma de mande c'hai e muca ci dai a mele hai condicele un bai babai ai 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 un babai ai 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 sumicele dalle mandale hanno motti azzare già mai cutelo in un già sumicele dalle mandale hanno motti azzare oh pazzo ma de mande c'è e muca ci dai da bere hai condicele un bai babai ali ali aine un bai babai ali ali aine un bai babai ali ali aine un bai
Et voilà, encore du jazz manouche. Alors là, j'ai un livre qui a été écrit par Guy Elipratt. Alors, c'est un vieux monsieur, parce que je peux même qu'il n'est peut-être plus en vie. J'ai pas de nouvelles de lui. Je l'ai connu, ouais. Je l'ai connu, bien sûr. Et il a fait plusieurs livres, hein, d'ailleurs, de poésie. Et il y en a un qui s'appelle « Ces dames d'Oslo ». Dans le quartier d'Oslo, où les dames d'amour en manteau d'Oslo fument le cigare, il n'est pas rare de voir le soir un inconnu à l'humeur vagabonde, folichon, leurs yeux verts, galants, le charme. Ils se grisent à la fièvre exquise de leur peau veloutée, s'enivrent du parfum des portes de l'Atlantique Nord. Le vent boréal lui apporte les arômes qui saoulent comme les psaumes. Les fields, alors les fields, je sais pas, ou les dwarfs, je ne sais pas comment on dit là, qui apparaissent aux caresses de ses mains, les silences du Cap Nord, là même où la perce-neige sur la banquise s'éternise, lui donne le vertige. Dans leur nudité, il lit les grands élégies, héroïques. Alors qu'elle lui récite des chants de Grundin, vierge parmi les vierges. Leur sexe, il s'agit pour lui du creux de vague, d'une vague, pardon. Un berceau imaginé, un drakkar endormi, une sauvegarde, un bateau de pêche pris dans la tempête en mer de Norvège qui se réfugie dans un forge. Il s'épanche dans le sein de ces dames galantes qui acceptent de boire avec complaisance le filtre enchanteur des amours. Il enlace le désert de Finnmark et s'endort sur les seins de glace de ces vierges flagellées. Voilà, c'est pas beau ça, hein. Alors, j'ai retrouvé alors un bouquin extraordinaire. Je ne sais pas si on peut le trouver encore. Une anthologie de la poésie française faite par Georges Pompidou. Vous vous rendez compte ? Alors, je sais qu'il y a plusieurs hommes politiques qui ont fait des livres comme ça, hein, ou des acteurs d'ailleurs, hein. Par exemple, Daniel Gélin, il a fait une anthologie. Xavier Darcos a fait une anthologie. Georges Pompidou, vous voyez. Il y a plein de gens comme ça qui se sont mis à faire des anthologies. Donc, ce n'est pas leur poème à eux, c'est le poème des autres. Les poèmes des autres, voilà. Alors, il paraît que c'est plus facile à écrire, hein, quand on les reprend. Bon, je ne sais pas ce que Georges Pompidou, en dehors des décrets et des articles de loi, tout ça qu'il a dû faire en tant que Premier ministre, et puis après, en tant que président de la République. Hein. Alors, Xavier Darcos, je sais que lui, il écrit. Il a écrit des poèmes fantastiques. Hein, il avait fait un poème sur Jean Boussu, vous voyez. Et moi, il m'a fait plusieurs préfaces de mes bouquins, deux préfaces. Mon premier livre de poésie, en 2000, et mon livre sur le mime, pour les 20 ans, anniversaire des 20 ans du Festival Mimos, voilà. Et il m'avait traité d'aide. Aed, en fait, c'est le poète grec, ouais. C'est vrai, j'avais une gueule de grec à l'époque, hein. Oh, qu'est-ce que j'étais beau, hein. On avait cru Poséidon, qui ne possédait rien d'ailleurs, hein, Poséidon. Hercule, ouais. Enfin, moi, avec mes petits muscles, je faisais plutôt minable à côté d'Hercule, hein. Et l'autre, là, celui qui naviguait sans arrêt, là, comment il s'appelait, il est rentré Pénélope, puis il avait fait des pulls verts. Non, des tas. Ulysse, ouais. Alors, moi, je me rapprochais de lui parce que je savais conduire, enfin, naviguer et conduire un bateau. Ouais, comme lui, ouais. Bon, alors, Lamartine, il a copié les poètes, alors, vous voyez, par exemple, Voltaire, Racine, que des grands, hein. Enfin, c'était des grands à l'époque. Hein. Alors, Racine, il en a mis des racines, hein. C'est plus qu'un arbre, hein, ça. Nicolas Boileau, oh, Boileau. Alors, il y a Goudeau et Boileau. Il faut savoir lequel des deux en boit le plus. La Fontaine. Bon, c'est une bonne blague. On peut pas éviter La Fontaine. La Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Hein? Le lièvre et la tortue, le chêne et le roseau. Ouais, bon. Allez, ça suffit, La Fontaine. Ah, Corneille. Hein? Non, pas l'oiseau. Hein? Non, le Corneille, qui c'est encore? Tristan l'ermite. Ah, très connu, lui aussi. Hein. Vincent Voiture. Alors, je ne sais pas si à quelle époque c'était, ça, parce que peut-être qu'à son époque, les voitures n'existaient pas. Hein. Ou c'était les voitures à cheval. Hein. Saint-Amand. Non, c'est pas Saint-Amand de Colly. Hein. Non, non. Marc-Antoine de Saint-Amand. Voilà, c'est pas pareil. Hein. Théophile Deviau, c'est pas Théophile Gautier, hein. Théophile Deviau, Mathurin Régnier, oh, Jean de Sponde, oh, François de la Malherbe, oui. Ah, Agrippa d'Aubigné. Alors, elle, ça, c'était une sacrée poétesse, hein. Bon, faut reconnaître que, Claude Garnier, bon, illustre inconnu, hein, je sais pas de quelle époque, des portes. Bon, allez, je vais vous lire un poème quand même, allez. Je vais vous lire Le lac de Lamartine. Hein. Bon, alors vous voyez, ce bouquin, si vous le trouvez, vous ne pourrez le trouver que chez les bouquinistes, hein, maintenant, parce que je m'étonnerais qu'il était réédité. Hein. Parce que d'abord, comment Madame Pompidou, elle était trop gourmande avec les droits d'auteur. Ouais. Donc les auditeurs ont arrêté de l'éditer. Ouais. Ah ouais, faut pas déconner quand même. Hein. C'est pas elle qui l'a fait, ce bouquin, c'est son mari. Merde. Hein. Alors, Le lac. Ainsi, toujours poussé par de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrions-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour ? Ben nous, on jetait l'ancre hein, au bout de quelques heures, parce qu'on n'allait pas très loin. Hein. On allait de la Guadeloupe, donc de la Marina, pas du fort, jusqu'à l'île des Saintes. Il y en avait quand il y avait un bon vent. Il y en avait pour le 3 heures à peu près, 3 heures de navigation. Et une fois, il n'y avait pas un brin de vent. Et comme mon copain à qui appartenait le bateau, c'était un puriste, il n'a pas voulu mettre le moteur. On est resté en cale sèche pendant 4 heures. Et moi, je me suis mis à lire dans le bateau. Et alors, si vous regardez pas l'horizon, vous avez un mal de mer. J'ai dégueulé partout, enfin, en dehors du bateau, bien sûr. J'avais le mal de mer à cause de ça. Et je me suis promis de plus jamais lire dans un bateau. Et bon, c'était une aparté. Hein. On dit un ou une aparté. Bon, moi, je préfère dire une aparté. Je trouve que c'est plus du féminin que du masculin. Oh, lac ! Lac, un lac, hein, un lac, oui. Comme le lac de Constance ou le lac de l'Annecy ou n'importe quoi. Oh, lac, l'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéris qu'elle devait revoir. Regarde ! Je viens seul m'asseoir sur cette pierre où je la vis s'asseoir. Ah bon, ça. Bon, ça c'est du Lamartine. Il est un peu spécial, Lamartine, parce que, vous voyez, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis à s'asseoir. Bon, qui comprenne qui veut. Hein. Bon, moi je fais jamais que le lire. Hein. C'est pas moi l'auteur. Hein. Bon, tu mugissais ainsi. Sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais dans leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur tes pieds adorés. Alors, dis donc, les pieds adorés, ils auraient pu être très beaux avec l'écume dessus. Hein. Ça a juste commencé, l'écume. Hein. Ça fait boueux, ça mousse. Il aurait pu dire le shampoing plutôt. Ça n'existait pas, le shampoing à l'époque. Un soir, te souvient-il? Nous voguions en silence. On entendait, au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Il parle à qui ? Il parle à la femme ou à la mère ? Tes flots. Non, ah oui, tes flots, c'est pas tes flancs. Ah oui, j'avais compris, tes flancs harmonieux. Non, c'est pas ça. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Attendez, je tourne la page. Les mots, ils sont derrière la page, hein, ils ne sont pas devant. Ô temps, surprends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. J'ai déjà entendu cette phrase à quelque part. Laissez-nous savourer les rapides délices les plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas, vous implore. Coulez pour eux, prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'horreur va dissiper la nuit. Alors, une nuit, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Bon, vous avez vu, hein. Entre l'été et l'hiver, elle fait ce qu'elle veut. Hein. L'hiver, elle dort un peu plus longtemps la nuit, c'est normal. Bon, il fait plus froid. Alors, aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. Il faut être plusieurs pour jouir. Bon. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule, et nous passons. Tant jaloux se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur. Et quoi ? N'en pourrons-nous fixer au moins la trace ? Quoi ? Passer pour jamais ? Quoi ? Tout entier perdu ? Ce temps qui les donna, de ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Oh ! Éternité, néant, passé, sombre abîme, que faites-vous des jours que vous engloutissez ? Parlez ! Nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez ? Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne, ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux, qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords, par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de tes molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Voilà. Et alors je suis obligé de vous quitter là-dessus. Donc je vais arriver au port et je vais descendre du bateau. Voilà. Et à bientôt.